I wanna shoot, baby. Shoot.
Ooh. How you doing, baby? Shoot. No, not you. You. Shoot. The bow-legged one. Yeah. What's your name? Shoot. Damn, baby. That sounds sexy. Here I go again, girls, yeah. What's my weakness?
Bonjour à tous et bienvenue sur istasia.fr pour notre 32e podcast, un retour sur l'actualité du cinéma asiatique de ce début d'année 2016. Au programme, des fantômes japonais, des palmarès de festival, Yong Song-soo, forcément, et un point sur des films hors Asie en fin de podcast, donc quelques digressions hors istasiennes. Sont présents pour évoquer tout cela, Amandine, bonjour Amandine.
Bonjour.
Elvire.
Bonjour.
Samir.
Salut.
Nicolas.
Salut.
Kefren.
Salut.
Et Yannick.
Salut.
Alors, juste une petite précision, si vous vous demandez pourquoi on ne parle pas de The Assassin, de Wuxia Ocean, de Tigre et Dragon, de The Mermaid qui cartonnent en Chine, c'est parce qu'on prépare un podcast spécial sur le cinéma chinois le mois prochain. Il y a une grosse actualité qui arrive sur le cinéma chinois, donc ça sera évoqué la prochaine fois. Et donc on va commencer au Japon cette fois-ci. Alors que The Whispering Star va sortir en mai prochain en Japon, Sono Sion est déjà de retour avec deux projets dans son actualité, en tout cas un projet direct et un projet sur lui. Elvire, est-ce que tu peux nous présenter cette double actualité autour de Sono Sion ?
Oui, donc l'information est tombée comme quoi Shinjuku Swan aura une suite réalisée par Sono Sion. Donc on a tous été un petit peu étonnés puisque il a quasiment officiellement renié Shinjuku Swan en fait, mais bon, apparemment il recommence pour un deuxième numéro, donc peut-être qu'il a tout simplement besoin d'argent. Il n'y a pas énormément d'informations qui ont été données dessus, si ce n'est que c'est le même casting. L'histoire, c'est un manga à la base, donc ce sera la suite en fait du premier opus. Donc voilà, après, c'est un film, à mon humble avis, c'est un film de commande, donc il est capable de faire du meilleur comme le pire qu'il a déjà fait. À voir, je crois qu'il sort, et le tournage a commencé en janvier, donc ce sera un de ses films de 2016, et il y en aura certainement plein d'autres.
Faut savoir quand même que Sono Sion, on le dit à chaque podcast, a réalisé 5 films. Mm. Donc Whispering Star, ça sera son 5e film réalisé au cours de l'année 2015. Que Shinjuku Swan était le premier film qu'il avait fait en 2015. Et c'est le seul qui apparaît dans le top 20 à peu près du box-office japonais de l'année. Donc, même si effectivement il ne le considère pas comme un film extrêmement personnel, qu'il l'a plus ou moins renié. C'est le seul qui est à peu près rentable pour lui. Donc je pense que s'il veut encore faire 4 autres films en 2016,
c'est ça, oui.
Il a tout intérêt à accepter l'argent.
Il fait quelques films de commande pour
Shinjuku Swan 2 et ensuite faire à peu près.
Voilà, il fait quelques films de commande pour pouvoir faire après des films un peu plus personnels. Donc pourquoi pas, c'est un pari plutôt gagnant pour lui. Et le deuxième projet donc, qui est plus indirect pour lui, même s'il sera le centre du projet, c'est que l'Anikatsu a annoncé. Réaliser un documentaire sur Sono Sion. Donc, Sono Sion sera enfin consacré dans un documentaire. Il n'y a pas énormément d'informations qui ont été diffusées dessus. Donc,
Moi, je crois que celui qui réalise le documentaire.
Oui, il y a le nom du réalisateur qui était.
C'est le fils de Nagisa Oshima.
Shinoshima.
Ouais. Ouais, merci à la personne sur Facebook qui nous l'a dit, puisqu'on ne l'avait pas trouvé sur Internet.
C'est des commentaires qui sont nos sources d'informations prioritaires. Ça, c'est du journalisme de haut niveau.
Ça veut dire qu'on suit notre page Facebook.
Voilà, je ne sais pas si quelqu'un veut rajouter quelque chose sur Sono Sion.
Bon, on attend la suite des projets pour l'année 2016 et 4 autres films.
Ce qui est étonnant quand même, c'est qu'il avait annoncé après ses 5 films qu'il voulait se consacrer à la musique et à l'écriture, à la littérature et à la musique.
Il peut le faire aussi.
Donc
il
revient.
Il peut-être que 2 films du coup.
Ou 3,
ouais.
Voilà.
Mais il a aussi annoncé dans un projet enfin, qu'il a tourné en 2015 aussi, c'est une anthologie sur l'amour, et Sion Sono a fait un segment, et il y a aussi Mia Wasikowska qui a fait un segment et d'autres.
Oui, ça, ouais, ça c'est des petits segments. Ouais. Vu sa rapidité d'exécution, en une journée il l'a fait. Ouais. Donc, bon.
Donc voilà, pas grand chose. On peut annoncer le retour de Sonotion en 2016, mais comme il n'est jamais parti en fait.
Comme on le fait chaque année, quoi.
Donc voilà. Un vrai retour, par contre, ça va être nos trailers qu'on a sélectionnés ce mois-ci. On reste au Japon avec la bonne annonce du mois, c'est Sadako versus Kayako. Kezako, Kefred.
Sadako vs Kayako, c'est la rencontre improbable entre les deux grandes franchises de J-Horror Ring, initiées par Nakata et Juon par Shimizu. Et cette rencontre est particulière car elle est réalisée par l'héritier justement de la première vague de J-Horror, Koji Shiraishi, qui est l'un des seuls auteurs de J-Horror actuel qui se consacre exclusivement à faire des films d'horreur. Donc on peut attendre le meilleur comme le pire. En tout cas, alors, ce sera
déjà la bande-annonce, on est plutôt dans le pire là.
Yannick, merci Yannick.
Donc on a tous vu la bande-annonce. Yannick, qu'as-tu pensé des premières images d'une bande-annonce d'une minute hein. Donc c'est vraiment très très court, le film est prévu pour juin.
Ouais, je crois mais on a déjà pas mal de choses. Hein.
Alors vas-y Yannick.
Bah, moi j'avais déjà pensé qu'avec Ring Zero et The Grudge 2, on avait atteint le fond. Mais là en fait, ils ont pris l'appel deux y creuses. Hein. Parce que bah déjà, les quelques images de maisons hantées, de machin, ça a l'air vraiment du classique de chez classique. Et la moindre apparition des fantômes tout ridicules, bleutés, la main toute mal faite qui arrache la VHS et tout. Mais là, c'est une catastrophe. Quoi. En une minute, on sait déjà qu'on a une bouse. Quoi.
Non, mais une VHS en 2016 en plus. Mais non, ça marche mais pas.
Moi, je dis qu'il faudrait qu'il rajoute Steven Seagal, là, peut-être.
Ou son fils qui joue au Japon.
Oui. D'ailleurs, il y a eu un film avec lui dans les coffrets Sushi Typhoon.
Il me semble, oui. Ah ouais je crois me rappeler de
oui, ta chronique. Oui, oui, oui. Ils se battent dans une forêt pour un cercueil.
Samir, quelles sont tes impressions sur ces premières images en voyant ça quelques images de fantômes japonais hein.
Non, on va pas commencer à critiquer un film sur une bande-annonce, c'est vrai, mais c'est un peu difficile de ne pas le faire. Je veux dire, moi ça m'a fait penser à ce film un peu, enfin pas très réussi, qui opposait
Freddy contre Jason.
Voilà, réutiliser
très
une.
Moi, j'aime
c'était un film très marrant, certes, fallait le prendre, c'est vrai, enfin en 35e degré, mais. Bah non, mais comme dit Yannick, oui, enfin, j'attends rien de ce film, donc à partir du moment où j'attends rien...
Je crois sur ce film-là que l'annonce a été faite le 1er avril 2015, il me semble,
voilà.
Et que justement c'était prévu comme une blague, et que les attentes ont été tellement, tellement fortes, ça a créé un buzz, et la production s'est dit,
pourquoi pas
faire tout d'un film, donc là-dessus, sur ce principe.
Non. C'est important de construire un projet sur des bases solides, en fait.
Voilà,
non mais je pense que ce film on ira tous, enfin soit on ira le voir ou on le verra.
On ira pas le voir.
Autrement.
On ira pas de toute façon.
Histoire de rigoler un peu et puis voilà et puis on fera un podcast là-dessus. Mais
on le verra peut-être sur Netflix si on a de la chance. Sur
Netflix.
Téléchargement illégal de toute
voilà,
façon.
Quoi,
bah,
voilà.
Ça ne sortira pas en salle donc
peut-être qu'il sera à l'étranger pour le.
À l'étranger. Peut-être
qu'il sera à l'étranger.
Bah, ils ont déjà pris une bouse de Nakata l'année dernière, ils vont peut-être pas continuer chaque année quoi.
Oui mais là pour le délire.
Voilà Nakata qui est pour rien.
Mais ouais. vous êtes d'accord que quand on voit la bande annonce, on trouve pas que c'est un film, je trouve pas que c'est une dégueulasserie ou quelque chose de choquant.
Non. Moi qui regarde la J-Horreur,
c'est marrant. Enfin voilà,
on a eu pire les deux dernières années.
Oui,
Sadako
ouais.
3D, Sadako 2.
Non, mais il y a eu pire,
ça,
mais
c'est le fond de la
ça va pas renouveler le genre en tout cas.
Non,
mais le genre
du
en fait,
tout.
La J-Horreur n'est pas vraiment faite pour être renouvelée.
Comment?
Alors Yannick, tu disais.
Je suis pas sûr que ce soit le but.
Non plus.
En fait, le problème, c'est qu'on a l'impression que c'est juste une réunion et le risque, c'est qu'il n'y ait pas vraiment de fond dans le film, en fait. Que l'intérêt, ça soit juste d'avoir les deux grosses franchises de J-Horror ensemble. Mais moi, je suis curieuse du film quand même.
Ce qui compte, c'est la mise en scène de Shiraishi, en fait. Et comme dans tous les films de J-Horror, et à peu près dans tous les films de genre ultra codifié, en fait. On sait déjà à quoi s'attendre, et ce qui compte, c'est comment le réalisateur...
Ouais, mais niveau mise en scène, quand on voit les quelques moments du fantôme, franchement, ça a pas l'air d'être vraiment
dans une
bien
époque aussi
post-Kiyoshi
Kurosawa. Kiyoshi Kurosawa a déjà presque tout fait avec les fantômes, etc. Donc, la seule manière de renouveler le genre, c'est justement de faire ce genre de choses, enfin, mais d'apporter des nouveautés ou d'apporter une mise en scène encore plus fouillée ou plus. plus exagéré dans les fins.
Ça a déjà été fait dans la J-Horror. Le J-Horror tellement codifié à l'excès que ça a tué le genre au bout d'un moment.
Kiyoshi Kurosawa a tué le genre et le renouvelle en ce moment justement.
Bah, Kiyoshi Kurosawa est reparti sur autre chose. Après, effectivement, en prenant le côté un peu parodique, quand on parle de Freddy contre Jason de Ronnie Yu, qui était déjà une parodie, il n'y a pas eu vraiment cette espèce de côté méta et le scream de la J-Horror qui a eu lieu. Donc on peut se demander si on part soit dans une entreprise vraiment parodique, de la part de Koji Ishiraishi, ça m'étonnerait, c'est quand même un cinéaste.
On ne le voit pas trop dans le... En tout cas, dans le trailer, c'est pas montré.
Dans la bande-annonce, ça a l'air d'être très, très premier degré.
Il y a eu la parodie de Meta J-Horror en 2004-2005 avec Shimizu qui a fait l'incarnation et j'ai oublié le second, Malevito avec Shinya Tsukamoto comme... Et dans ces deux films méta, ces deux films qui parlent.
Oui, mais c'était pas parodique.
Non, Marébito était vraiment original.
Et vous pensez que ce film-là sortira en France sur les
écrans? Aucune chance.
Aucune chance.
Ah bah voilà. C'est dit, c'est fait.
Ah non, va sur les plateformes de téléchargement parce que c'est mort.
Donc il sort en juin au Japon.
Donc en juillet sur vos sites internet.
On vous en reparle en juillet en critique preview parce qu'on l'aura téléchargé, parce que c'est le genre de film qui aura des fansubs.
Et c'est un film qu'on peut voir sans sous-titres, c'est bon, je veux dire, il n'y a pas besoin à mon avis. Non
quand même. À moins que tu aies quelques bases en japonais.
La provocation gratuite, désolé.
Alors on va passer à toute autre chose. On a eu en janvier et février deux festivals dont on est partenaire et qui sont assez importants. Le premier, c'est le festival du Black Movie. Qui s'est tenu du 22 au 31 janvier 2016 à Genève. On va commenter en fait les palmarès de ces festivals. Le Black Movie est un festival qui est assez généraliste, qui a une ligne éditoriale très, très précise, mais qui n'est pas concentré sur l'Asie. Il y a un film asiatique qui a eu le prix du public, qui est Kabuchiko Love Hotel, de Hiroki Ryuchi. Je ne sais pas si quelqu'un veut dire un mot sur ce film et ce prix. Je pense qu'on l'a tous vu autour de.
Bon, on en avait déjà pas mal parlé pendant le festival Kino Taio. Ah non, j'ai pas dit que je voulais particulièrement en parler, mais c'était juste pour dire qu'on en avait déjà pas mal parlé à Kino Taio à la fin de l'année. Je crois que la plupart des gens avaient plutôt apprécié. Je vais laisser.
Parole à quelqu'un d'autre. Moi, je permet de remettre la lumière sur un auteur oublié des années 2000 du cinéma japonais. Et qu'en fait, oui, ça permettait justement de revoir la filmographie de Ryuichi Hiroyuki, justement, qui a fait pas mal de films ces 10 dernières années et qui sont complètement inconnus pour le public occidental.
Yannick, tu l'as vu, Kabuchiko Love Hotel?
Non, je ne l'ai pas vu, non.
Bon. Voilà, un coup d'épée dans l'eau, on va passer au festival suivant, qui est le Festival International des Cinémas d'Asie de Vesoul, que vous connaissez parfaitement, vu que le podcast 31 était entièrement consacré au FICA. On y était avec Jérémy, Elias et Nicolas. Donc Nicolas est là, on va pouvoir en reparler un petit peu. Ce qui est intéressant, c'est que depuis ce podcast, on a eu le palmarès. Un palmarès extrêmement long parce qu'il y a beaucoup de jurys, il y a beaucoup de prix. On va retenir particulièrement le Cyclo d'Or, donc qui est le prix le plus important du festival, qui est remis par le jury international, qui était présidé par Im Sang-soo, qui a été donné à Tarlo de Pema Tseden. Le prix de la critique, qui ont été donnés à trois films. Il y en avait 7 ou 8 en compétition, donc la moitié des films ont eu des prix cette année.
Non, enfin, il y a eu des mentions, quoi, mais un seul prix pour...
Oui, un seul prix des mentions. Oui.
Alors, c'était Being Good, de Mipo, qui a eu le prix principal, et des mentions pour Under Construction, de Ribayat Hossein, et One Nutri, de Yarland, Nurmukabetov, cinéaste kazakh.
Voilà.
Voilà. Quant au prix du public, il a également été donné, comme on l'avait annoncé, Nicolas, à Being Good de Mipo.
Exact. Bah, pour moi, bah, on n'a pas pu voir tous les films de la compète, puisqu'on est parti le dimanche, et que malheureusement, les films qui ont été primés pas mal par des autres prix, que tu as peut-être cité, ou pas d'ailleurs.
Non, c'est fini pour les prix, là. Il y a eu suffisamment de prix.
On va quand même citer... Under Construction, notamment, qui a été pas mal primé.
Notamment par le musée Guimet.
Notamment par le musée Guimet, prix extrêmement important. Spécial dédicace.
Voilà, de ce qu'on a vu, pour moi, Being Good, c'était vraiment la claque. On en avait parlé pour le podcast spécial, mais c'était vraiment la claque du festival. Parce que c'est un film, comme on avait dit, qui parle de sujets assez délicats à aborder au cinéma sans tomber dans le misérabilisme ou le gros mélodrame bien larmoyant, et elle arrive à garder l'équilibre.
Tu peux resituer un peu le
sujet. Oui, donc bon, en gros, c'est un film, un espèce de film où on croise plusieurs personnages au sein d'une petite ville. Donc un professeur, en fait, qui commence un peu et qui doit, enfin, qui a sous son aile une classe de jeunes en primaire, quoi, voilà, un peu turbulents et qui ont chacun leurs problèmes. Et donc lui, il va essayer d'apprendre à savoir comment gérer tous les problèmes du quotidien par rapport à cette classe et par rapport aux enfants qu'il a sous sa direction, enfin, sous... Voilà, et à côté, donc, il y a le personnage de cette mère, en fait, qui bat son enfant. Et y a un troisième personnage qui est une vieille dame qui est un peu atteinte des prémices de la maladie d'Alzheimer. Donc voilà, ça fait un espèce de catalogue misérabiliste comme ça.
Oh, ce film de festival.
Mais justement, en voyant ça, on se dit, oh là là, ça va être horrible, ça va être encore bien lourd et tout. Et au final, elle arrive à donner une espèce d'énergie comme ça, à trouver un équilibre qui fait que le film est vraiment assez bouleversant, mais dans le bon sens du terme. Et c'est toujours, elle trouve toujours le ton juste, en fait, pour parler des choses, que ce soit du milieu scolaire, du milieu éducatif, c'est jamais moralisateur, même avec la mère qui bat ses enfants, la manière dont elle va essayer de la ramener un peu, je sais pas, elle arrive à trouver à chaque fois une idée qui fait que c'est très émouvant.
Il n'y a pas de jugement sur les personnages,
pas de jugement,
c'est quelque chose qui est très, le film est très touchant, voilà. parce qu'en fait on n'est pas dans l'explication psychologique non plus qui va excuser les personnages, parce que mais il n'y a pas de jugement, ce sont des situations qui sont montrées, sont des situations qui peuvent être effectivement assez difficiles, mais de montrer de manière très réaliste, mais en même temps avec un attachement au personnage, une luminosité, toujours, on n'est pas du tout dans du glauque, hein. C'est très proche du cinéma de Koreeda, en fait,
dans la manière de diriger les enfants, déjà, Koreeda, c'était un des meilleurs directeurs d'acteurs, notamment au niveau des enfants.
Et la manière dont elle travaille avec les enfants, on en avait parlé à Vesoul, est assez incroyable. Il y a un surgissement du réel dans certaines scènes. Par exemple, le professeur va demander aux enfants, à sa classe, de faire un câlin à un membre de leur famille. Et en fait, Mipoho recueille ensuite, donc les enfants l'ont vraiment fait, ce sont des enfants qui ont entre 7, 8, 8, 9 ans, et elle recueille ensuite leur impression d'une manière extrêmement documentaire, très directe. Et donc on a les enfants qui s'expriment face caméra, qui racontent à leur professeur, mais donc au spectateur et à sa caméra, ce qui leur est arrivé en demandant ça. Donc on a des réponses très spontanées, des fois ils trouvent que c'est très bizarre, des fois on voit que ça comble un manque affectif. Et ce surgissement du réel est extrêmement, extrêmement touchant, d'un point de vue cinématographique et en tant que spectateur.
Il y a plein de belles idées comme ça, en fait, qui parcourent tout le long du film. Déjà la manière dont surgit cette idée, par exemple, quand le professeur rentre chez lui, chez sa sœur, je crois, et là, c'est son neveu qui vient le prendre. Voilà, lui, il est à moitié déprimé par sa classe et tout ça, et cette idée, elle naît, en fait, du fait que son neveu vient le prendre dans ses bras, tout simplement, spontanément, et à partir de là, c'est là où vraiment a lieu le basculement du film par rapport aux différents personnages, à ce personnage-là, et puis par rapport à sa relation avec les enfants. Donc c'est vraiment tout là, ça marche par basculement, en fait, comme j'expliquais.
C'est un film assez magnifique sur l'éducation, comme c'est Nicolas, c'est un sujet qui t'intéresse particulièrement, l'éducation. Mais c'est vrai que pour les professeurs, ou les instituteurs qui peuvent perdre un peu confiance dans le milieu, dans le milieu scolaire, ou qui peuvent avoir des difficultés, c'est un film qui peut redonner aussi de la joie et de l'envie. Donc j'espère qu'on en reparlera d'ailleurs cette année, il n'a pas encore de distributeur,
j'espère qu'on le verra, surtout.
J'espère qu'on pourra le voir, peut-être avec Kinotayo, ou le précédent.
Ce serait bien qu'on n'attende pas non plus Kinotayo pour voir.
Mais Kinotayo, c'est en novembre 2016, donc
c'est cool qu'on puisse le voir avant quand même.
Peut-être que un distributeur français, je pense que c'est un film qui peut tout à fait marcher en France.
Si tu mets en tagline sur l'affiche le film préféré de Koreeda,
déjà Koreeda fait 20 000 entrées, donc vraiment...
Déjà 20 000.
Il en fera 2 000. Comme alors donc il y a eu ces deux festivals en début d'année, donc le Black Movie et le FICA de Vesoul, qui ont présenté un film en commun qui est Another Way de Cho Chang-ho. Est-ce que, donc on va en parler vu que c'est le film, le dénominateur commun de ces deux festivals qui nous a intéressés en ce début d'année, est-ce que, Amandine, ce film méritait cette double sélection, d'après toi ?
Pas vraiment, je pense. Non, pas vraiment. Honnêtement, non. Il n'est pas inintéressant, en fait. C'est pas du tout ça le problème. C'est juste... on n'arrive pas vraiment à situer quel est le réel intérêt du film, en fait. C'est, on ne sait pas où le réalisateur voulait en venir, au final. On ne sait pas ce qu'il a voulu montrer ou dénoncer. On ne sait pas.
Alors, Another Way, est-ce que tu peux nous dire le point de départ, ouais, alors, de l'intrigue?
On part d'un réseau social qui ressemble à Twitter, je dirais, où deux personnes, Blackbird et Whitebird, se parlent et se donnent rendez-vous le même jour pour se suicider ensemble. Ils ne se sont jamais vus, ni rien. Et donc on va suivre pendant, je crois que c'est une, deux semaines, je ne me souviens plus bien, on va les suivre chacun de leur côté, jusqu'à ce fameux jour. Et du coup, on est censé comprendre le pourquoi, du comment, ils décident de mettre fin à leur jour. Et voilà. Déjà, très vite, il y a un personnage qui prend plus le pas sur l'autre. Le personnage féminin est beaucoup plus intéressant que le personnage masculin, je trouve. Son histoire est plus...
développée, peut-être.
Est plus développée, voilà, parce que elle a plusieurs raisons, entre guillemets, qui pourraient nous pousser à comprendre, si on veut. Lui, il a une chose de mémoire dans sa vie qui ne va pas. Enfin, une ou deux, ouais, voilà. Mais même ça, ça ne nous touche pas, alors que ce sont quand même des événements traumatisant qui nous touche en général dans les films, etc. Là, on n'est pas touché. Il n'y a aucune dramatisation de absolument rien du tout. Et du coup, c'est vrai qu'on n'est pas du tout touché par ce qui leur arrive et on attend qu'une chose, c'est savoir si ça va se faire à la fin. Non, mais c'est ça en fait. Et même la fin, sans, je ne vais pas spoiler, mais même la fin, finalement, on n'est pas pris dedans.
C'est vrai que c'est un film qui a, sur lequel il y a une structure antidramatique du fait que les personnages eux-mêmes sont dévitalisés par, oui, par ce qui leur arrive, ils attendent de mourir, et donc la mise en scène est un peu, suit un peu ce manque d'envie de vivre. Non, donc
voilà. On a l'effet de manière, voilà,
très clinique, très cru, c'est pas du Haneke. Hein, pour,
non mais c'est très clinique, t'as raison, c'est très froid, c'est... Alors ça colle bien à l'ambiance vu que ça se passe en hiver en Corée, donc ouais, c'est voilà, super, il y a la neige partout, tout est glacé. Mais c'est extrêmement froid en fait, et du coup on n'a aucune prise sur les personnages. On les regarde évoluer, ils sont pas particulièrement expressifs. Le personnage masculin encore plus que... Il est mono, il a une expression pendant tout le film.
C'est ça.
C'est un acteur en drama.
Ouais, ceci peut peut-être expliquer cela, mais quand même, c'est pas une raison.
Pas trop mauvais, voilà, mais là...
Et en fait, objectivement, on s'en fout complètement de ce qui peut leur arriver, c'est dans ça, leur vie, en fait. Ils ont chacun des blessures très profondes, très dures à supporter au quotidien, mais on n'en a rien à battre. On attend juste de savoir si à la fin, ils vont finir par se suicider ou pas.
C'est ça. Leur rencontre, comment ça va se passer au final, mais...
Mais du coup, c'est dommage en fait. C'est dommage parce que c'est un film qui se situe. Enfin, en tout cas, le thème principal est vraiment dans l'actualité. Juste pour rappeler que la Corée connaît le plus fort taux de suicide de jeunes en fait dans le monde. Donc le thème du suicide est très actuel en Corée. Mais c'est pas développé, quoi. On s'en fout. C'est un prétexte en fait pour amener à la fin.
En fait, ça aurait été intéressant le côté où on sait, on est dans l'état d'esprit des personnages, si ça nous laissait y rentrer en fait. Mais directement, on est censé ressentir ce qu'ils ressentent en fait, sauf qu'ils ne ressentent absolument rien. Et du coup, en regardant le film, on ressent rien.
On est lassé de vivre, on a envie de se prendre avec eux à la fin.
Mais c'est dommage parce qu'on sent, enfin honnêtement, l'histoire aurait pu avoir du potentiel en plus. Le côté, c'est pas inintéressant, mais non, du coup, ça laisse un sentiment un peu de gâchis à la fin. Enfin, moi, je sais que j'étais frustrée. Quand j'ai vu le film, j'ai fait, en fait, c'était ça.
Alors, on a rencontré Shoshang-ho au FICA de Vesoul. Je vous invite, si vous voulez en savoir plus sur le film, que vous aurez peu d'occasion de voir en dehors de festival, à aller lire également son interview, qui explique aussi ce qu'il a voulu faire, son point de vue, et qui peut amener un contrepoint par rapport à cette déception par rapport au film. Un autre film sur lequel on voulait très rapidement revenir, qui a été présenté au Black Movie de Genève, c'est Sayonara de Fukada Koji. Kefren, donc tu l'as vu, je sais que tu as beaucoup aimé. Est-ce que tu peux nous présenter un peu le film en quelques secondes? Je pense que c'est un film dont on aura l'occasion de reparler, qui a une chance d'avoir une distribution française. Hein. Tu survivances.
Mais en fait, Sayonara, comment expliquer ça? Bah, c'est un film de science-fiction minimaliste, genre un peu comme certains films russes ou des choses comme ça. Ça se situe dans un Japon
soviétique, même.
Oui, voilà,
soviétique.
Et il y a déjà une référence directe. Ça se passe dans un Japon qui subit les affres du nucléaire, justement. Et les Japonais se voient contraints de quitter le Japon petit à petit, en attendant leur numéro de sortie. Et on suit une jeune femme qui n'est pas japonaise, justement, une
sud-africaine.
Oui, voilà, une sud-africaine. Qui attend elle aussi de pouvoir partir, mais comme elle n'est pas japonaise, bien sûr son tour viendra en dernier. Et on la suit jusqu'au final, justement. Et elle est accompagnée dans sa fin de vie d'aventure par un personnage robot et une actrice robot qui, justement, se retrouve plus humaine qu'elle à la fin du film. Et je vais pas spoiler le film, mais...
Tu l'as déjà un petit peu fait.
Sans le vouloir, tu l'as un peu fait, quand même.
Voilà.
Voilà, c'est fait.
Je ne l'avais pas vu.
Mais ça n'a pas une importance capitale. Oui, non. C'est pas un film dont la narration est primordiale.
Mais justement, comme Fukada, comme son film précédent, justement, la mise en scène vise à justement exprimer plus un sentiment, une émotion, un instant, plutôt que de raconter justement une histoire au service d'une narration plus complexe qui justement rappelle certains films russes. Et moi je pense précisément à Sokurov, justement, car il y a une scène qui fait directement référence. Il y a une scène où elle se retrouve avec la femme robot dans une espèce de délire de forêt et l'image commence à être distordue, etc. Et c'est exactement... le même effet que Mère et Fils de Alexandre Sokurov, qui est un film de 94, je crois, où c'est un film de 1 heure, où
ça me rajeunit pas, je l'ai vu en salle, problème. Non, ça devrait être 94, parce que
j'étais jeune. Et justement, et tout le film, justement, parle aussi de ça, et est situé sur le même effet, justement. Et après, on peut citer beaucoup d'autres références, enfin, dans la composition des plans... peut-être Tarkovsky ou des choses comme ça pour son jeu à la lumière.
Quand tu dis film de science-fiction soviétique, minimaliste, tu
penses à Tarkovsky. C'est forcément un peu différent.
Je pense aussi qu'il y a un rapport à Stalker, etc.
Oui. J'ai trouvé le film très beau, très entraînant, un côté un peu hypnotique, en fait, qui n'est pas du tout désagréable. Après, moi j'ai du mal un peu à me situer par rapport au film, parce que j'ai eu de gros problèmes avec le personnage principal. Donc, personnage principal, ça peut être aussi le robot, hein, mais je pense pas au robot qui est juste parfait. Mais avec le personnage de la sud-africaine, j'ai eu énormément de mal, en fait, et j'ai eu un peu envie de la claquer pendant tout le film. Après, je sais que c'est le personnage qui veut ça, en fait, un personnage très...
Il pourrait presque être dans un film de Shoshango.
Voilà, très très distant, très froid, sans expression. Mais je me suis demandé à un moment donné si c'était vraiment voulu ou si c'était juste un mauvais jeu d'actrice, en fait. J'ai pas la réponse, hein. Je pense que c'est peut-être un peu des deux.
Moi, je pense que c'est voulu. Enfin,
c'est voulu, mais moi, ça m'a un peu gêné.
Fataliste, quand même.
Ouais, mais ça m'a un peu gêné à un moment donné, j'en avais un peu marre, en fait. Mais c'est le seul point négatif que je peux trouver.
Il y a ce côté où le robot. Enfin, l'android prend le pas sur l'humain et où le caractère justement plus avoir envie de vivre, avoir envie de découvrir une beauté dans le monde est transmis de l'humaine qui meurt peu à peu, en fait. C'est aussi une des thématiques du film, à cet android qui garde cette mémoire. Donc,
bizarrement, j'ai pas trouvé d'évolution dans le personnage, en fait, de la femme. Du début à la... Autant le personnage du robot évolue, autant la femme, j'ai pas... j'ai pas senti particulièrement la disparition non plus. Dès le début, je l'ai trouvée inexistante, en fait.
Dès le début, en fait, on sent qu'ils sont condamnés, en fait.
Je pense que j'aurais préféré voir une certaine évolution quand même, parce que dès le début, dès la première scène, je me suis dit, oh putain, elle va me saouler, celle-là. Et elle m'a saoulée pendant tout le film, en fait. Donc, Mais c'est le seul point négatif, s'il faut vraiment trouver un, parce qu'après, le film est superbe, il est très poétique. Bon, il est poétique, évidemment, parce que l'image est belle et parce qu'ils passent leur temps à réciter des poèmes.
Il y a un robot qui récite du Rimbaud, quand même.
Ouais, c'est peut-être un peu trop poussé par moment, mais c'est... Enfin, moi, je trouve qu'il y a...
Oui, la scène est très belle. Il récite d'abord en anglais, je crois, et il lui demande de réciter en français, et il récite le bateau ivre en français.
J'ai peut-être un peu plus de mal avec les films qui cumulent les références, en fait, mais après, ça, c'est très personnel. Je trouve qu'à un moment donné, c'est un peu poussé. Mais c'est un très beau film, et j'espère vraiment qu'il aura une sortie en France, parce que c'est un film à voir.
Moi, il semble avoir vu quelques posts du côté de Survivance. Donc, en théorie, ils devraient. En tout cas, ils ont les droits.
C'est très bien, c'est très bien. Parce
ça ne veut pas dire qu'ils vont le sortir, mais en théorie, ils devraient.
Et puis, je pense que c'est le genre de film qui pourrait fonctionner, entre guillemets, comme un film japonais, en France, parce que c'est le genre de film qui peut plaire, en tout cas, à la critique française. Il y a du Rimbaud.
On apprend à l'école.
Il y a de la poésie, il y a des jolis paysages, et c'est contemplatif, donc ça peut plaire, en fait. C'est un peu péjoratif ce que je viens de dire, je crois, mais c'est pas grave.